Une question. Une lecture biblique. Tite, chapitre 2. Tite, chapitre 2. Nous allons prier avant de lire. Seigneur, merci pour ta parole. Merci car elle est lumière. Merci car elle nous éclaire. Et nous te prions de nous éclairer, de nous parler et de nous aider à avoir un cœur et des oreilles ouvertes devant toi ce matin. Amen. Tite, chapitre 2, verset 1. Pour toi, dis ce qui est conforme à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, respectables, sensés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni asservies aux excès de vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, afin d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être sensées, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises chacune à son mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Exhorte de même les jeunes gens à être sensés. À tous égards, on te montre en toi-même un modèle d'œuvre bonne, et en donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, inattaquable, afin que l'adversaire soit confus et n'ait aucun mal à dire de nous. Exhorte les esclaves à être soumis en tout à leur maître, à leur plaire, à ne pas être contredisants, à ne rien détourner, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Vous allez être déçus si vous pensez que je vais tout expliquer dans ce texte, et certaines personnes vont peut-être venir me voir à la fin de culte pour me secouer par le cou. Mais en tout cas, ce que j'aimerais souligner dans ce texte, c'est qu'il y a plusieurs catégories de personnes dans l'Église où servait Tite. Il est question de vieillards, d'hommes âgés, on va dire, de femmes âgées, de jeunes femmes et de jeunes gens. Ça englobe, à part les enfants, plus ou moins tout le monde. Et Paul dit que ces gens-là vivent ensemble. Ils sont au culte, ensemble. Et ils donnent des instructions pour qu'il y ait de bonnes relations, de bons rapports entre les vieux, les jeunes, les femmes, les hommes, les uns et les autres. Un mot qui revient souvent, c'est le mot « sensé ». Être sensé, ou être un modèle, être des modèles. Et il est évident que dans l'église sur l'île de Crète où habitait Tite, les gens avaient des relations les uns avec les autres. Les jeunes, les vieux, les hommes et les femmes. Qu'il soit dit en passant, Paul souligne l'importance de la parole de Dieu dans leurs relations. Il parle de la saine doctrine, de l'enseignement pur, de faire honorer la doctrine de Dieu. Il parle d'une parole saine. Et tout cela dans le contexte de la vie de l'Église. Autrement dit, Paul tient à ce que les chrétiens là-bas vivent une communion fraternelle, réelle, profonde, visible. La communion fraternelle. Nous allons y réfléchir ce matin. Qu'est-ce que c'est la communion fraternelle? On entend parler d'amour fraternel, de repas fraternel, d'esprit fraternel. Parfois, quand on termine notre courrier, on met à la fin salutation fraternelle. Mais qu'est-ce que c'est la communion fraternelle? Alors, nous allons y penser ce matin et j'aimerais d'abord définir la communion fraternelle. Ensuite, donner quelques caractéristiques de la communion fraternelle pour voir si nous le vivons entre nous. Je suis sûr que oui. Donner quelques exemples du monde de la communion fraternelle qui existe en dehors de l'Église. Quatrièmement, parler d'obstacles à la communion fraternelle. Et cinquièmement, avant minuit ce soir, le cinquième point, on va parler de comment enlever les obstacles, comment les reconnaître. Alors d'abord, définition, la communion fraternelle. Vous voyez sur l'écran plusieurs mots, en plusieurs langues. Il y a le mot communion, deux fois. C'est du français, hein. Le mot communion signifie quoi? Eh bien, ça signifie deux choses. Ça signifie comme uni, comme, et puis U-N-I plus loin. Et ça signifie aussi, selon le dictionnaire, union de ceux qui ont des idées, des sentiments et des intérêts en commun. Alors, normalement, nous tous chrétiens, nous avons des idées, des intérêts, des sentiments en commun. C'est pour ça qu'on vit dans la communion fraternelle. Le deuxième mot qui est sur l'écran, c'est un mot qui vient d'une langue barbare. C'est de l'anglais. Et ce mot, fellowship, est composé de deux mots en anglais. Il y a fellow, c'est-à-dire des gens, des individus. Et ship, ce qui signifie bateau. Et l'idée, ce sont des gens dans un bateau qui vont quelque part ensemble. Et c'est pas mal comme image de l'Église. La communion fraternelle, on est dans un bateau qui n'est pas en train de couler, Dieu merci, mais on va quelque part ensemble. Fellowship, la communion fraternelle. Ensuite, le mot vient de d'Outre-Rhin. Est-ce que c'est moi qui ai appuyé erreur? Qui vient d'Outre-Rhin, et c'est un mot qui signifie ou qui décrit des personnes qui ont des liens intimes comme celles qui font partie d'une même famille. Communion fraternelle en allemand. Des liens. Comme si on fait partie de la même famille. Et un chrétien et un chrétien font partie de la même famille. Et puis le dernier mot, koinonia, c'est un mot qui est grec, qui est le mot dans la Bible d'ailleurs, qui signifie partager quelque chose avec quelqu'un et participer à quelque chose avec quelqu'un. Et dans une église, on partage plein de choses et on participe à plein de choses. Normalement, la communion fraternelle en plusieurs langues. Donc vous voyez, il s'agit des liens, de vivre en harmonie avec d'autres personnes, quel que soit leur arrière-plan, leur position sociale, leur niveau d'études, leur lieu d'habitation. Ce qui nous unit, c'est notre amour pour le Christ. Nous avons des intérêts, des sentiments, des idées en commun. La communion fraternelle. Quelques caractéristiques de la communion fraternelle. Nous n'allons pas lire ces versets, mais dans Jean 13, Jésus dit, si vous vous aimez les uns les autres, le monde saura que vous êtes mes disciples. L'amour fraternel doit être visible. Ensuite, il est question de servir les uns les autres. Ensuite, il est question de porter les fardeaux des uns et des autres. Galates 5 et puis Galates 6. C'est pour ça qu'on prie ensemble, on partage des fardeaux, des problèmes, et on lutte dans la prière ensemble. Il est question de consoler les uns les autres, 1 Thessaloniciens 4. Il est question de s'instruire les uns les autres, de s'encourager les uns les autres, d'avertir les uns les autres, dans Colossiens 3, 16 et 17. Vous voyez, il y a peut-être une trentaine de versets dans le Nouveau Testament qui contiennent cette phrase « les uns les autres ». Ou les uns avec les autres. D'ailleurs, Alfred Kuhn, je crois bien, a écrit un livre sur toutes ces phrases dans la Bible. Moi, je n'en mets que 6. Mais il est question aussi de l'accueil. l'accueil fraternel. Je pense qu'on devrait, si on voulait, on pourrait mettre, ou on devrait mettre devant chaque église évangélique le nom de l'église et puis en dessous, au bon accueil. Parce que nous devons accueillir. Et nous devons nous accueillir les uns les autres. Et comme dit Paul dans Romains 15, comme Christ vous a accueilli, accueillez-vous les uns les autres. Christ nous a accueillis tels que nous étions. Nous devons nous accueillir les uns les autres. Troisièmement, quelques exemples de la communion fraternelle dans le monde, en dehors de ces murs, et des exemples qui peuvent nous éclairer sur la réalité de la communion fraternelle. Un exemple, c'est une maison pour mères célibataires que nous avons connue autrefois dans l'Isère. Et cette maison avait une devise que tout le monde connaît. Donc dans cette maison, de jeunes filles, rejetées souvent par leur famille, parfois par la société, la devise de cette maison était tout simplement « on s'aide, on s'encourage, on se comprend ». Pas mal comme devise pour une église. On s'aide, on s'encourage, on se comprend. On est tous différents, mais on s'aide, on s'encourage, on se comprend. Premier exemple. Deuxième exemple du monde. Autrefois, comme certains savent, nous habitions dans le Pas-de-Calais. Et dans le Pas-de-Calais, autrefois, il y avait une très grande équipe de foot. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais c'était une très grande équipe, ça s'appelait toujours RC Lens. Et de temps en temps, quand nos enfants étaient petits, j'ai eu l'occasion d'aller dans ce stade avec mes garçons. Et dans ce stade, il y a... la ville de Lens a une population de 30 000. Et dans le stade, tous les samedis, il y avait 35 000 supporters de Lens. Et je me souviens, une fois, on était dans ce stade, et on était allé plusieurs fois, et Lens n'avait jamais gagné. Chaque fois qu'on y allait, Lens n'avait jamais perdu. Chaque fois qu'on y allait, soit Lens gagnait, soit c'était un match nul. Et on était à ce match, j'étais là avec mes deux gars, ici à ma droite, ils étaient petits à l'époque, et Lens perdait 2-1 contre une équipe du Sud-Ouest, que je nommerai pas. Et on était dans les dernières minutes, et on se disait, mais il faut que Lens marque un but. Et puis, dans les dernières minutes, ce n'était pas suite à la prière, mais Lens a égalisé. Et à ce moment-là, et je ne plaisante pas, tout le monde était debout, sauf les supporters de l'autre équipe. Tout le monde était debout. Et à côté de moi, j'ai vu qu'il y avait des hommes qui prenaient mes garçons dans leurs bras, qui s'embrassaient, qui dansaient ensemble. Et je me suis dit, c'est formidable. On est en pleine communion. Si des hommes avaient fait ça avec mes garçons dans la rue, je les aurais emmenés en justice. Mais dans un contexte comme ça, on était tous ensemble, tous heureux. Lens n'a pas gagné, mais au moins, ils n'ont pas perdu. Mais je me suis dit tout de suite, ça c'est la communion. On est ensemble, des intérêts, des pensées, des sentiments en commun. Un autre exemple, c'est le Borsalino. Le Borsalino n'existe plus, mais le Borsalino, c'était un... C'est peut-être un mot italien, je ne sais pas. En tout cas, c'est peut-être un grand mot en italien. D'accord. Non, le Borsalino. Le Borsalino, c'était un bistrot en face de notre salle de culte dans la Sarthe. Et deux après-midi par semaine, on a organisé un après-midi portes ouvertes dans notre église. Et puis, n'importe qui pouvait passer, boire un café, partager des problèmes, lire la Bible avec nous. Et pendant 3 ou 4 ans, presque personne n'est venu. Mais, nous étions souvent dans la salle, en train de bouquiner, on attendait des gens, et quand on regardait en face, on voyait le barman du Borsalino appuyé sur son bar, et il y a quelqu'un en face qui vidait son sac, qui vidait son cœur. Et puis, la semaine après, il y a une autre personne qui expliquait tous ces mots à Alain, le barman qu'on connaissait bien d'ailleurs. Ses enfants venaient à notre club d'enfants. Et j'étais souvent en face dans notre église en train de me dire, ça c'est formidable. Alors on ne connaît pas ces gens-là forcément. Certains sont des étrangers, mais ils viennent, ils se sentent à l'aise pour tout dire à Alain autour d'un verre. Tout peut se dire autour d'un verre peut-être, mais on n'a pas besoin d'un verre pour tout se dire. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut construire un bar au fond de la salle dans cette église, même si ça pourrait être ici. Non, mais Alain prenait son temps, peut-être il avait l'impression de perdre son temps, mais il écoutait des gens qui avaient besoin de parler. Et une église, normalement, on est là pour écouter des gens qui ont besoin de vider leur sac, qui ont besoin de parler. Et sans qu'ils le sachent, ils ont besoin de la prière, de nos prières. Le quatrième exemple, et il y en a d'autres, de la communion fraternelle qui est en dehors de l'église et qui vient du monde, j'ai pensé à ça hier soir. Je n'ai pas pu voir le match de rugby, mais à la fin du match de rugby, les Samoaniens, je ne sais pas comment on dit, les habitants, les rugbymen de Samoa, à la fin du match, ils étaient à l'atelier, on les voit en cercle avec leur staff, leur entraîneur, leur pasteur attitré, tous les genoux en cercle, en train de chanter « Quel ami fidèle et tendre ». Et après ça, un des frères, je ne sais pas lequel, mais il a prié au nom de tous avant de rentrer se doucher. Ça, c'est le communion fraternel. Malheureusement, il y a des obstacles. Il est quelle heure parce que je ne veux pas... Oui, ça va. Il y a des obstacles à la communion fraternelle. Et je vais vous montrer quelques obstacles. A, B et C. Je vais demander à quelqu'un qui sait lire de lire le mot à côté de la lettre B dans quelques instants. A, B et C. J'appelle ça des obstacles ou des assassins de la communion fraternelle. Des assassins d'une église. Le premier assassin, c'est un mauvais esprit. Tout chrétien a le Saint-Esprit. C'est sûr et certain. Mais malheureusement, certains chrétiens, parfois, sont, c'est quoi le mot, pas motivés, animés, voilà, merci, animés par un mauvais esprit. Un esprit claniste, on reste dans notre clan, on exclut les autres, on n'inclut que ceux qu'on aime bien. L'esprit claniste, l'esprit conciergiste, je vais y revenir, l'esprit apparentiste, l'apparentiste, c'est-à-dire tout ce qui compte, c'est le paraître, non pas l'être. C'est l'apparence qui compte, et on peut tromper beaucoup de gens par l'apparence. Mais certaines personnes mettent l'accent là-dessus, mais je pense à ce que Jésus dit à une église dans l'Apocalypse, tu as la réputation d'être vivant. Mais en réalité, tu es mort. C'est ça, l'apparentiste. Individualiste, bien sûr, on vit chacun pour soi. Chiement fichiste, égoïste, on pourrait ajouter égotiste, c'est pas la même chose qu'être égoïste. Mais tout ça, on tourne autour un peu de notre propre nombril. L'esprit conciergiste, et merci Seigneur pour les concierges, nous avons un frère dans notre église à Arras qui est concierge, et qui sert le Seigneur dans son travail. Mais l'esprit conciergiste, je vais expliquer comment je vois l'esprit conciergiste qui tue la communion fraternelle. Il y a quelques années, un monsieur a commencé à fréquenter notre église, et un jour il me téléphone, et on discute au téléphone, et il me dit, ah David, tu sais, j'ai vu une sœur de l'église à la caisse à Auchan l'autre jour. Je dis, ah oui, et il me dit, j'oublie comment cette dame s'appelle, mais tu sais, c'est celle qui s'occupe de tout le monde et qui sait tout sur tout le monde. J'ai compris tout de suite de qui il parlait. Alors, s'occuper de tout le monde n'est pas péjoratif en soi. Mais la façon dont il a dit Et la personne dont il parlait, c'était évident que c'était quelqu'un qui avait l'esprit un peu conciergiste. Elle voulait, ou elle croyait, tout savoir. Une deuxième chose qui peut tuer la communion fraternelle, est-ce que quelqu'un veut bien lire ce mot? On n'a pas besoin d'être bachelier de savoir lire ce mot. Ça commence avec shunk, ça se termine avec shunk. Et il y a des choses au milieu. Il s'agit du nom d'une rivière dans le Connecticut aux États-Unis. C'est un nom indien. Et ce mot signifie, ça se prononce comme ça s'écrit d'ailleurs, ce mot, comme le nom Sutherland, ce mot signifie, donc c'est du monde des Indiens, des peaux rouges comme on dit, tu pêcheras. Dans ton petit coin, je pêcherai dans mon petit coin. C'est-à-dire, dans la rivière, on est là en train de pêcher, mais tu dis à ton voisin, toi, tu pêches là-bas. Moi, je pêche ici. Autrement dit, toi, laisse-moi tranquille. Fiche-moi la paix. On est dans la même rivière, mais je veux être ici, je te veux là-bas, et je n'ai pas trop envie qu'on se fréquente. Ça, c'est une attitude qui peut tuer une église. Tu pêches ton coin, je pêche dans mon coin. Ou tu restes là-bas, je reste ici. Ça va, on se voit de loin un dimanche matin. Mais je ne veux pas te voir après dimanche midi et avant dimanche 10h. Ça, c'est une attitude qui peut tuer une église. Mais malheureusement, ceux qui ont cette attitude souffrent parfois de la solitude. Et dans notre église, et je suis sûr que dans cette église-ci, il y a des gens qui souffrent de la solitude. Et qui ont l'impression de pêcher dans leur petit coin et qui sont tout seuls. Cela me rappelle la complainte de la chanson de Michel Berger, Les uns avec les autres, un titre biblique, mais qui se termine avec les paroles suivantes, au bout du compte, on se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde. Même s'il y a les uns et les autres, au bout du compte, on se rend compte qu'on est toujours tout seul. Pensons aux personnes dans notre famille, ici, qui sont seules ou qui souffrent de la solitude. On peut être seul sans souffrir de la solitude. On peut être avec plein de monde et on peut souffrir de la solitude. Pensons à ces personnes-là et prions pour elles. Et puis la dernière chose, un autre esprit ou une autre attitude qui peut nous habiter, c'est l'amertume. Ça peut tuer la communion fraternelle. La jalousie. Un complexe d'infériorité. Ou le contraire, un contexte de supériorité. Ça peut tuer une église. Ça a tué des églises. Et nous devons veiller sur notre cœur et sur nous-mêmes par rapport à nos attitudes dans notre église. Je termine. Reconnaître et faire disparaître les obstacles à la communion fraternelle. Il nous appartient à chacun de reconnaître et d'enlever les obstacles de notre cœur. Et pour faire ça, on doit d'abord examiner son propre cœur et demander au Seigneur de nous montrer d'enlever des choses. Il s'agit aussi parfois d'écouter les reproches faits avec amour de la part d'un frère ou d'une sœur qui peut nous dire des choses qui nous font parfois mal, mais parfois c'est juste. Et on doit se demander, Seigneur, aide-moi à changer. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Un chant qu'on chante parfois. Et puis, on doit toujours demander au Seigneur de nous montrer notre cœur. On connaît le verset dans le psaume 139, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Ce chant est connu. Ce verset est connu. Mais il y a un autre verset de Jérémie 12. « Et toi, Éternel, tu me connais et tu me sondes. Tu me connais, pardon, et tu me vois. Tu sondes mon cœur auprès de toi. » Demandons au Seigneur de nous sonder et de regarder ce qu'il y a dans notre cœur. Et si on lui demande sincèrement, il va nous montrer des saletés. Et c'est à nous de dire, je vais garder ces saletés. Ou alors de dire, Seigneur, s'il te plaît, enlève, pardonne, change. Si vous me permettez un petit mot de témoignage. Lorsque j'étais étudiant à l'Institut biblique, il y avait un garçon qui s'appelait Steve. Et Steve était un beau garçon, un bon footballeur, doué au volley, un musicien hors pair, très fort au ping-pong. Et le pire, toutes les filles étaient amoureuses de lui. Il avait tout ce que je n'avais pas et tout ce que je voulais. Alors, Steve et moi, on s'est fréquentés comme ça, mais avec le temps qui est passé, j'avais une mauvaise attitude dans mon cœur. Et j'ai commencé à me dire, mais pourquoi est-ce que toutes les filles sont amoureuses de lui? J'étais célibataire à l'époque, hein, et pas amoureuses de moi. Et puis, quand on jouait au foot, tout le monde parlait de lui, personne ne parlait de moi, sauf de mes bêtises, dont je n'étais pas fier. Et il jouait bien de guitare, au ping-pong, et petit à petit, j'ai commencé à détester ce mec. Et quand on était dans la même pièce, je sortais. Quand on était à table, au réfectoire, quand il venait s'asseoir à ma table, soit j'avais du mal à digérer, soit je changeais de table. Et c'était un véritable problème. Le soir au lit, je ne pensais qu'à lui. C'était terrible. Et puis je me suis rendu compte que, au lieu de penser à lui, j'étais vraiment en train de penser à moi. Et puis, puisque j'étais un garçon spirituel, hein, j'ai dit, mais je vais prier à ce sujet. Et un matin, dans la parole de Dieu, je lus dans mon culte personnel, le Notre Père, il est question de pardonner, d'être pardonné. Et ce matin-là, j'ai dit, Seigneur, je te demande aujourd'hui un signe. Parce qu'il faut que je parle à ce gars. Donne-moi un signe. Parce que je n'ai pas besoin d'un signe. Je savais qu'il fallait que je lui parle. Mais j'ai dit, Seigneur, donne-moi un signe. C'est spirituel de prier comme ça. Enfin, c'est ce que j'ai pensé. Plus tard, dans l'après-midi, après les cours, je me trouve, je vais finir ce que je vais faire, donc j'ai dit, allez, je vais aller lire le journal dans le salon des étudiants. Donc, je vais dans le salon. Et manque de bol, il n'y a qu'une personne dans le salon en train de lire mon journal. Steve. Alors, j'étais tenté de faire demi-tour. Mais le Seigneur m'a rappelé. David, tu as demandé un signe. Et j'étais là face à lui et j'ai dit, oh, c'est pas vrai. Parfois, le Seigneur répond aux prières, pas selon nos envies. Donc, j'étais franco avec lui. J'ai dit, Steve, il faut qu'on se parle. Est-ce qu'on peut aller quelque part? On est allé dans une autre pièce où on était tranquille. Et j'ai dit, Steve, j'ai un problème. Et je veux le partager avec toi. Et j'ai expliqué tout ce que j'avais dans mon cœur contre lui. Et j'ai dit, Steve, c'est pas ton problème. C'est mon problème. Et je te demande d'abord de me pardonner. Et ensuite de prier pour moi et avec moi. Que Dieu m'aide à t'accepter, à t'aimer comme un frère en Christ. Sans complexe d'infériorité, sans jalousie, sans amertume, sans vouloir me comparer à toi, etc., etc. Donc j'explique en détail ce que j'avais dans mon cœur. Je peux vous dire que ce n'était pas une partie de plaisir. Alors Steve est tombé des nues. Il n'en savait rien de tout ça. Donc il m'a écouté, on a discuté, il m'a lu un ou deux versets bibliques, on a prié ensemble. Et je peux vous dire que tout de suite, après les deux amens, mon cœur a changé. Et puis comme le Seigneur fait souvent, un test, dans les secondes qui suivent, il me dit, David, si on faisait un match de ping-pong, oh là 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 là, on l'a fait, il m'a battu, et on était heureux. Et on est devenu assez proches les mois qui ont suivi sur le terrain de foot, de volley et ailleurs. Le Seigneur peut nous aider. Mais c'est à nous de dire, Seigneur, j'admets que dans mon cœur, il y a ça. S'il te plaît, enlève. Fais disparaître. Et même si ça coûte, je suis prêt. Donc pour terminer, pour conclure plutôt, si nous avons un problème avec un frère et une sœur, nous devons reconnaître ce problème, demander au Seigneur de faire disparaître ce problème, et ainsi nous connaîtrons une communion fraternelle véritable. Ma prière pour nous tous, c'est que notre Église soit une Église dans laquelle il y a la communion fraternelle qui soit visible, palpable et belle. Pour la gloire du Seigneur. Amen.